Elle nous a fait une surprise la semaine dernière. Elle est venue nous voir dans il y a des après-midi comme ça, mais on la retrouve un peu plus sur le format habituel. On est avec Caroline Collin qui s'occupe des communications pour le Cobali. Bonjour.
Bonjour.
Alors effectivement, on te retrouve en avant-midi cette fois-ci et on va évidemment parler pour la chronique environnement. Mais on va parler un petit peu également du Cobali par la bande, cet organisme sans but lucratif qui travaille à la gestion intégrée de l'eau du bassin versant de la rivière du Lièvre. Puis là, des fois, on a tendance à penser que ça arrête là parce que ça finit par « lit » ce Cobali. Mais non, c'est pas tout. De la rivière Blanche également et du ruisseau Pagé.
Oui.
Aujourd'hui, on va, vous et moi, auditeurs, auditrices, on va en apprendre un peu plus sur notre prochain, mais pas n'importe lequel, un habitant qui, des fois, est un peu mal aimé, surtout dans nos lacs, nos cours d'eau, le castor.
Oui, en fait, même s'il fait grincer des dents, hein, comme plusieurs riverains, des fois les propriétaires de terrains en milieu forestier aussi, des travailleurs de la voirie, d'entretien de sentiers récréatifs. En fait, savais-tu que le plus gros rongeur au Canada possède un attribut bien particulier qui le rapproche en fait drôlement de la race humaine?
Il a été abonné au Club Columbia quand il était jeune, c'est ça?
Pas tout à fait.
Ah, OK. J'essayais.
Oui, c'est bien. En fait, le castor est un des seul mammifère qui façonne son environnement, donc il modifie son environnement.
OK.
Avec ses barrages, ses huttes, ses canaux, on peut dire que c'est un ingénieur hors pair, en fait.
C'est tout à fait comme nous, en fait. C'est comme les humains. Sur les postes de télé pour castor, c'est plein d'émissions de rénovation, je suis sûr.
Peut-être. Et puis, est-ce que tu as une idée, en fait, pourquoi il construit ses barrages?
Pas tant, parce qu'il veut absolument s'assurer qu'on l'oublie pas parce qu'il veut continuer à rester sur la monnaie canadienne.
Pas tout à fait. En fait, c'est que comme le castor est un animal qui passe la plus grande partie, dans le fond, de ses journées dans l'eau, il se trouve à construire un barrage pour agrandir son territoire, puis par le fait même se protéger de ses prédateurs qui, eux, sont terrestres. Par exemple, le loup. Okay. Alors, le barrage sert à contrôler le niveau de l'eau parce que l'eau doit atteindre l'entrée de la hutte, mais pas l'inonder complètement. Puis, une autre raison aussi, c'est que pour survivre à l'hiver et au lac gelé, le castor, puisqu'il continue à circuler sous l'eau durant l'hiver pour avoir accès à sa nourriture, il a besoin de maintenir une profondeur d'au moins 1 mètre d'eau pour pouvoir nager sous la glace.
Quand même, c'est spectaculaire.
Effectivement. Puis en passant, encore plus spectaculaire peut-être, c'est qu'il peut atteindre jusqu'à 7 km/h à la nage, puis il peut rester 15 minutes sous l'eau, puis même il peut réussir à manger sous l'eau sans s'étouffer parce que ses narines se ferment automatiquement dès qu'il plonge dans l'eau.
On vous conseille pas ça à la maison. Faites pas ces tests-là.
On n'a pas ces mêmes facultés-là.
OK. Bon, qu'est-ce que ça mange donc un castor?
C'est végétarien, donc ça va se nourrir principalement d'écorce, de feuilles, de bourgeons d'arbres. Donc, on commence un petit peu plus là à comprendre pourquoi le castor, il coupe autant d'arbres. Hein. Okay. Non seulement c'est pour construire ses barrages, sa hutte, mais aussi pour manger justement les feuilles et les bourgeons des arbres.
Il mange sa job.
Sur la job, oui, on pourrait dire ça. Donc, quand l'arbre est debout, il n'a pas accès aux feuilles et aux bourgeons. Donc, c'est pour ça qu'il va se trouver à l'abattre.
Okay.
Puis, il adore en passant les peupliers faux trembles, aussi les bouleaux, les saules, les érables, les sorbiers, les cerisiers, les aunes, bref, toutes sortes de feuillus. En été, il va même ajouter des plantes aquatiques à son menu. Pour assurer sa subsistance durant la saison froide, il va se trouver à accumuler les branches d'arbres sous l'eau l'automne qui vont lui servir par la suite de réserve. Donc, même s'il peut entrer et sortir assez facilement de sa hutte durant l'hiver, parce qu'il y a plusieurs entrées, au minimum une sous l'eau puis une autre au-dessus de l'eau. Le castor, en fait, il est plutôt casanier durant l'hiver. Il va passer le plus clair de son temps bien au chaud dans sa hutte.
OK. Si les auditeurs ou auditrices ont eu l'occasion de se promener dans le vieux Montréal, dans les boutiques pour les touristes, ils savent, il y en a plein de castors dans les boutiques pour touristes.
Oui.
Mais apparemment, il y en a quand même beaucoup en ce moment des castors aussi. Est-ce qu'on a comme une surpopulation ou c'est sous contrôle?
En fait, c'est vrai que les populations actuellement se portent plutôt bien. Mais il faut se rappeler sait que, comme tu l'as un peu dit, les castors ont fait l'objet là, d'une trappe intensive à l'époque de la traite des fourrures, hein, dès les années 1600. Donc, si bien qu'à la fin des années 1800, donc 250 ans, 350 ans plus tard, ben, ils se faisaient rares à peu près partout sur le continent nord-américain, même qu'ils avaient disparu complètement là, de certains secteurs. Donc, il a fallu la mise en place de mesures de protection par les gouvernements, par exemple des permis de piégeage et puis des réserves à castors aussi, au début des années 1900, pour que les populations se rétablissent tranquillement. Puis aussi, ben, c'est ça, hein, le prix des fourrures a grandement chuté parce qu'on avait un peu moins d'intérêt pour ça. Donc, c'est sûr que le nombre d'animaux piégés a diminué là, beaucoup. Donc, en fait, aujourd'hui, quand on trappe le castor, hein, c'est moins pour l'intérêt pécunier que pour, malheureusement, les dommages que parfois il se trouve à causer.
Il y a moins de manteaux en castor depuis qu'on a le polar. Non, je pense pas que c'est ça la raison. OK, il y a du dommage hein, qui se fait. Tu en as parlé en début de chronique. Bon, les arbres qui coupent, qu'on perd malheureusement, qu'on ne peut plus utiliser après, le niveau d'eau qui peut augmenter et qui va inonder, entre autres, des chemins, peut-être même jusqu'aux propriétés en plus.
Effectivement. Par contre, au-delà des conséquences fâcheuses, donc sur le plan matériel, le castor, il crée aussi gratuitement, faut le souligner, grâce à ses barrages, des milieux humides qui nous rendent par la suite là, des fiers services écologiques. Donc, entre autres, ça crée des habitats hein, pour plusieurs espèces animales, par exemple les amphibiens, là, les grenouilles et compagnie, des oiseaux aussi, des mammifères. Donc, ça en fait d'excellents endroits pour observer la faune, en plus d'être appréciés par les chasseurs, parce qu'ils peuvent y retrouver là, les orignaux, entre autres, en début de saison, puis la sauvagine aussi.
Alors, vous le savez maintenant, Caroline Collin, elle trouve toujours une façon positive de regarder chaque petit problème, on va le dire comme ça, parce que entre autres, ben, ça peut causer des dégâts... Les ruptures de barrages peuvent causer des dégâts aussi.
Oui, ça, c'est certain, c'est vrai.
Moi, je suis le rabat-joie dans l'histoire.
Ben, il faut voir les deux côtés de la médaille.
Ouais, ouais.
Hein? Donc, c'est vrai que les barrages peuvent éventuellement céder. Par contre, si on considère ça comme un problème, c'est aussi parce qu'on a décidé d'aller s'installer près des cours d'eau. Hein? Donc, parce qu'en fait, sur le plan naturel, une rivière, un ruisseau, ça change, ça bouge, ça se déplace littéralement au fil des ans, on peut voir que le tracé se modifie là, à certains endroits. Puis même à l'intérieur d'une année aussi, il y a des variations dans les contours de la rivière, par exemple, quand on pense aux crues printanières.
Oui.
Donc, castor ou pas, là, finalement, un cours d'eau, ben, ça ne reste pas identique à lui-même à travers le temps, c'est dynamique. Donc, puis une autre façon aussi, c'est que plutôt que d'avoir le réflexe de vouloir tout de suite démolir un barrage parce qu'on veut s'éviter finalement hein,
les problèmes
dus à une rupture, c'est ça, on peut adopter plutôt une approche préventive de gestion des barrages. C'est-à-dire qu'on peut suivre l'évolution des barrages qui sont jugés sensibles là, parce qu'il y aurait des risques pour les chemins ou les habitations, par exemple. Donc voilà, une façon d'agir autrement. Puis ça, du temps passant, lorsqu'on déplace des castors ou qu'on les élimine, il arrive parfois qu'on cause nous-mêmes, sans le vouloir évidemment, la rupture d'un barrage. Parce qu'aussi longtemps que les castors sont présents sur un cours d'eau,
ils l'entretiennent.
Inlassablement. Ils vont le réparer, ils vont l'entretenir parce que c'est une question de survie pour eux.
Bien sûr. OK. Mais là, je ne sais pas si tu vas avoir la réponse à cette question-là, mais qu'est-ce qui arrive si jamais, effectivement, une rupture de barrage, entre autres, cause des dommages à notre propriété? Est-ce qu'il y a une association des castors qu'on peut contacter pour pouvoir rétablir la situation? Je ne sais pas.
Bien, c'est sûr que pour les dommages graves, il faut contacter la municipalité. Si c'est juste une question, à ce moment-là, de d'arbres qui est coupée par les castors, ben, on peut utiliser la bonne vieille broche à poule.
Oui, OK.
Entourer nos arbres de ça, donc on prévient. Puis on peut planter aussi des essences qui sont moins appréciées par les castors, des résineux, par exemple, le mélèze laricin puis le sapin baumier.
Bon, à savoir.
D'une autre façon. Pour les ponceaux, ben, il y a des cônes de déprédation qu'on appelle, sans entrer dans les détails, inquiète-toi pas. L'idée, c'est juste de laisser passer les poissons et l'eau et ça empêche, par contre, les castors de venir bloquer le ponceau. Alors ça, c'est une des solutions. Dans le fond, hein, l'idée, c'est d'apprendre à cohabiter avec cet animal-là qui fait partie de notre territoire, notre patrimoine, de notre histoire. Puis, enfin, dans le cas des nouvelles constructions, hein, mieux vaut prévenir que que guérir. Donc, en prenant en compte, dans le fond, le castor puis les barrages éventuels qu'ils pourraient installer, ben on regarde ça avant de choisir l'emplacement définitif de notre petit nid douillet.
Là, écrivez-moi pas, je sais très bien que ça se peut pas, une association de castors. J'ai de l'air mêlé, je le suis pas tant que ça. Nous étions avec Caroline Collin, responsable des communications pour le Cobali. Caroline, j'aimerais ça qu'on répète l'adresse Internet du Cobali pour les gens qui auront des questions.
Oui, donc le www.cobali.org.
Pas plus compliqué que ça. Merci beaucoup, Caroline.